Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagiral. On décortique l'actu jusqu'à 19h avec les grandes voix de ce soir. Laetitia Krupa, spécialiste en communication politique, et Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Pauline Vox.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être sur Europe 1 avec nous ce soir. Dites donc, réformer sans fâcher, c'est le casse-tête de Jean Castex. Et ce ne sera pas facile pour le Premier ministre. Laetitia.
Ce n'est pas facile, en tout cas il a dit qu'il voulait aller vite, tout de suite, hein, ouais. Dans sa première interview.
Mais quand on entend les syndicats, voilà, notamment Yves Verrier qui était là à l'instant...
Ah bah oui, mais ça c'est normal, les syndicats installent le rapport de force.
Il y a l'envie et il y a la réalité, oui.
Le Premier ministre a dit, ma méthode c'est le dialogue social. Mmh. Donc il a reçu les syndicats ont la main, on va dire, puisqu'ils savent que le Premier ministre veut avancer avec eux. Mmh. Voilà, pas sans eux. Donc forcément, ce qui est un peu normal, hein, ça arrive souvent quand on sait qu'un bras de fer va arriver, on installe tout de suite le rapport de force avec une journée de mobilisation et ensuite, on va discuter. De toute façon, les syndicats, là, pour l'instant, n'ont rien. Personne ne sait à quoi va ressembler ce plan de relance. On sait qu'il va arriver relativement vite. Là, le Premier ministre ne donne pas de date. On nous avait dit que ce serait avant la fin de l'été.
On va en parler tout à l'heure.
À partir de là, on pourra rediscuter et manifester, etc. Là, c'est simplement, on installe le rapport de force.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est très difficile, effectivement, de mener ces réformes parce que l'opinion, pour l'essentiel, n'en veut pas vraiment. Ouais. Vous savez, si le Premier ministre est redevenu populaire, le précédent, Édouard Philippe, à la faveur du confinement, et si même le président de la République avait gagné en popularité, c'est aussi parce qu'ils avaient stoppé les réformes, parce qu'ils avaient suspendu l'application des différentes réformes, et notamment pour l'application de la réforme, notamment de la mobilisation du chômage, et la réforme des retraites. Et cela avait été reçu positivement. Les gens s'étaient dit, tiens, finalement, on va pouvoir souffler, parce que les réformes actuelles sont des réformes où la plupart des gens ont plutôt à perdre.
Mais c'est le Premier ministre qui remet ça sur la table.
D'adaptation. Oui, parce qu'il n'a pas le choix pour deux raisons que de réformer. Probablement parce que d'abord, c'est sa conviction. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron et M. Castex sont convaincus, la République En Marche en général, qu'il faut réformer la France. Ça, tout le monde le pense plus ou moins, mais qu'il faut la réformer ainsi, dans un sens plus libéral.
Et il faut arriver avec un bilan à la présidentielle.
Voilà, c'est leur conviction. Mais c'est par ailleurs leur intérêt politique. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, les 24% de Français qui ont choisi Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, plus une bonne partie de ceux qui avaient choisi François Fillon, ceux-là, donc à peu près le gros tiers des Français qui soutient régulièrement Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, vous avez vu dans les intentions de vote à la présidentielle, fait un score assez considérable, hein, entre 25 et 30%, eh bien ces Français-là, ils sont minoritaires, mais ils sont déterminés à réformer le pays. Si Emmanuel Macron ne leur donne pas satisfaction, il n'aura plus de base électorale de premier tour à la prochaine présidentielle.
Et c'est bien cet électorat qui fera la différence dans 2 ans, Laetitia Krupa.
En tout cas, c'est une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et il le sait, c'est impossible d'arriver en 2022 sans avoir fait cette réforme bien des retraites. C'est impossible. Donc, il l'a dit certainement à Jean Castex, puisque tout de suite, dès son arrivée, il a parlé de cette réforme
des
retraites.
Ça a été mis sur la table tout de suite.
Il a dit qu'effectivement, on allait rouvrir le dialogue. Alors, bien sûr, il ne va pas la faire tout seul. Il a bien vu que Édouard Philippe avait quand même utilisé le 49-3 à l'Assemblée nationale, ce qui a donné un sentiment de passer au-dessus, hein, du peuple, justement, de ne pas écouter la base, de ne pas écouter ceux qui sont le premier concerné. Hein. Cette retraite, c'est quand même nous. Des fois, on l'oublie. Parfois, on parle comme ça de théorie politique, mais enfin, la retraite, ça concerne tout le monde. Donc, tous les Français comprennent à peu près ce qui va leur arriver. Enfin, c'était quand même compliqué parce que la pédagogie a été très mal faite. Ouais. Et là, voilà, il veut la faire, sauf qu'aujourd'hui, les syndicats ont dit non.
Bien sûr.
On
et
dit
comment,
non, d'abord,
Jérôme Sainte-Marie, comment on ne met pas le feu aux poudres avec un déficit à 30 milliards, c'est ça 30 milliards
Oui, c'est-à-dire quel est le rapport par rapport aux réformes
comment on arrive à réformer justement avec ce déficit?
Ah bah c'est tout le problème, c'est qu'actuellement effectivement les réformes ne peuvent pas s'accompagner d'un donnant-donnant en quelque sorte, on ne peut pas concéder, aider d'un côté, protéger davantage, puis réformer. Non, il faut réformer, mais encore une fois, La République En Marche, c'est le parti de la réforme. C'est, vous savez, une des hantises d'Emmanuel Macron et de ses amis, c'est de voir se reconstituer le clivage gauche-droite.
Ouais.
C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, les élections municipales n'ont pas été très réconfortantes pour eux, puisque au niveau local, dans les villes, le clivage gauche-droite a quand même pas mal résisté. Mmh. Et La République En Marche, Emmanuel Macron, ont permis la réunification des libéraux de gauche et de droite, des réformateurs de gauche et de droite, s'ils ne sont pas unis par la réforme. Et je verrai même plus loin, s'ils ne sont pas unis par le conflit social. C'est-à-dire que, vous savez, la réforme produit un conflit social, Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas nécessaire, hein, comprenez-moi bien, mais dans l'état actuel de la société, ça produit du conflit social.
Ouais.
Et le conflit social produit plutôt un renforcement, en réalité, d'Emmanuel Macron et de ses amis. On l'avait vu en janvier 2018, on l'a vu également après les Gilets jaunes aux européennes. Ça réunit autour de lui, ça soude autour de lui une minorité de Français, mais une minorité importante.
600 jours pour réformer, deux points, mission impossible, point d'interrogation, on en reparle dans un instant.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral, entouré des grandes voix, Laetitia Krupa, spécialiste en communication politique, et Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut Pauline Vox.
Et jusqu'à 19h, on parle bien sûr de cette relance dont on a parlé ce matin sur Europe 1, puisque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, était sur Europe 1. Écoutez.
Nous pouvons faire une transformation profonde de notre modèle économique pour avoir un modèle plus compétitif et surtout plus durable. La relance nous permettra d'accélérer cette transformation et d'avoir des entreprises qui auront de meilleurs produits et des produits plus décarbonés, plus verts, plus respectueux de l'environnement. J'aborde donc cette relance avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pense qu'elle peut être une chance pour notre pays.
Voilà, la relance verte, une chance pour notre pays, Jérôme Sainte-Marie.
Ah ben, on touche à quelque chose qui est parfois peu perçu. Beaucoup de gens identifient l'écologie, la décroissance et l'anticapitalisme.
Ouais.
En réalité, l'écologie peut permettre un renouvellement profond des infrastructures. Par exemple, si vous créez une norme sur le logement, sur la protection, par exemple l'isolation, eh bien vous obligez, en quelque sorte, vous créez une activité économique. Vous obligez effectivement les particuliers ou les entreprises à changer les conditions d'isolation de leurs locaux. Et donc, ça crée de l'emploi pour les entreprises. C'est de l'emploi forcé et généralement avec une forte subvention publique. Ça ressemble, c'est un modèle qui est très connu, ce qu'on appelle le keynésianisme. C'est du Keynes, en fait. C'est par décision politique et avec une aide de l'État, ce qui provoque peut-être un peu d'endettement, vous créez de l'activité économique en espérant comme ça sauver votre appareil de production, le renouveler. Mais encore une fois, c'est en quelque sorte l'écologie et créer une espèce de capitalisme vert.
Ouais.
Et c'est le pari, à mon avis, qui est fait actuellement.
Ça veut dire qu'il y aura clairement des ponts entre Bruno Le Maire et la nouvelle ministre de l'écologie, Barbara Pompili.
C'est ce qu'il a laissé entendre ce matin, mais enfin c'était quand même beaucoup de méthodes couées. Hein. Quand on l'écoute, Bruno Le Maire, pour l'instant, on n'a pas de mesures vraiment concrètes. Il a essayé quand même, quand il a dit qu'il voulait inclure l'écologie dans cette relance économique, il a essayé d'en donner, bien sûr, 2-3 exemples. Alors, c'est drôle parce que quand les politiques donnent des exemples, c'est très, très concret. Vous savez, c'est la petite usine du petit village où on a l'impression que Bruno Le Maire a passé 10 ans parce qu'il connaît exactement quel métier va procéder différemment, etc. Ça donne une impression d'un politique avec un ancrage local. C'est dans l'air du temps. Je crois que c'est un peu à la mode en ce moment, puisque le macronisme, on lui a tellement reproché d'être hors sol que maintenant tous les ministres s'y mettent. Bon, ça commence un peu à se voir quand c'est comme ça de la communication. Pour l'instant, le pauvre Bruno Le Maire, il reprend ce qu'Emmanuel Macron a dit le 29 juin. Hein. Il a dit rien de plus ni moins que de dire on va remettre l'écologie dans le système de production, dans le modèle de production. Encore une fois, voilà, des mots. Oui, d'accord, il y a en tout cas une ligne directrice. Maintenant, on attend de voir les mesures concrètes.
Lounis nous a appelé au 39-21. Bonsoir Lounis.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lille et vous avez une question à poser à nos grandes voix ce soir. On vous écoute.
Ok. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parle d'une relance qui favorisera l'industrie. Donc, selon vous, quel secteur doit être soutenu en priorité? Des secteurs plus écologiques, peut-être?
On vient d'en parler, Jérôme Sainte-Marie. Merci à vous, Lounis.
Je n'ai pas la compétence en réalité pour savoir quel secteur doit être soutenu, soyons clairs. Par contre, j'observe, comme pas mal de monde, que les plans sociaux se multiplient et que vous avez des fermetures. Par exemple, une des conséquences de la vente d'Alstom à General Electric, apparemment, ça va être de nouvelles fermetures d'entreprises. Et là, ça devient assez compliqué parce que les Français sont assez simples, et moi qui connais peu de choses en économie également, c'est-à-dire qu'ils ont envie à un moment donné, si vous voulez, de voir effectivement des choses concrètes. Ils jugent l'arbre à ses fruits et ils se disent que si effectivement, et là on leur fait un pari schumpeterien, si vous voulez, en matière économique, en leur disant on va détruire des choses pour pouvoir les renouveler. Les Français voient surtout la destruction, d'autant plus que c'est des raisonnements du genre on va détruire des entreprises comme des canards boiteux, des entreprises obsolètes pour avoir quelque chose de plus performant, de plus vert, de plus moderne. Ça a été tenu par exemple dans les années 80, c'était exactement ce qu'on disait au sujet de la sidérurgie en Lorraine, etc. Et disons que c'est une promesse qui est à moitié tenue. Beaucoup de gens commencent à réfléchir plutôt en termes de protectionnisme qu'en termes de destruction créatrice.
Sur ces plans sociaux, justement, on peut regarder ça, on peut se dire, est-ce que finalement le Covid Albondo, quoi. Enfin voilà, est-ce qu'on ne licencie pas parce qu'il y a eu le Covid, parce que c'est pratique, voilà, mais les deux mois perdus, bah, ça.
Non, je crois qu'il y a.
Il y a pas ce sentiment-là aussi.
Mais il y a une réalité économique, hein. Avant de dire que le Covid a Albondo, il y a quand même eu des pertes sèches phénoménales, et c'est vrai que c'est pour ça que le gouvernement soutient des secteurs qui ont été particulièrement percutés par cette crise sanitaire, qui sont l'aéronautique, tout le secteur du tourisme. Enfin, il y a quand même des moyens, une grande débauche de moyens pour soutenir ces secteurs industriels, mais pendant combien de temps? Parce que je vous rappelle qu'on est en pleine crise encore. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que ça y est, c'est derrière nous. Mais non. Alors la rentrée nous annonce effectivement un climat social tendu, avec une crise économique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin. Mais il y aura aussi cette crise sanitaire dont on ne sait absolument pas si elle est vraiment terminée. Et Bruno Le Maire a conclu son interview ce matin en disant que la sécurité sanitaire passait avant tout. Mmh. C'est-à-dire, je vous rappelle quand même Emmanuel Macron, souvent on va vite et on oublie, mais enfin c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Emmanuel Macron qui avait dit qu'il ferait passer la sécurité sanitaire. Mmh. Or là, on a aussi ce problème de crise économique parce qu'on est devant un fait. Donc comment tout ça va s'articuler en septembre, on verra.
Jérôme Sainte-Marie.
En fait, personne ne sait, bien sûr, quel va être le climat social à la rentrée. Tout le monde commence à comprendre que de manière économique, là pour l'instant, ça va être dramatique. Parce que pour l'instant, la société, la France, est un peu sous morphine. Il y a eu quand même ces prêts garantis par l'État. C'était un énorme investissement qui a été décidé par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, qui a aidé et sauvegardé pas mal d'entreprises. Mais tout cela a une fin. Et ces prêts garantis par l'État, ça correspond grosso modo à 2 ou 3 mois de chiffre d'affaires des sociétés. Ça signifie quand même qu'en septembre, c'est terminé. Et que donc, là, ça va être la réalité crue, va être assez brutale. On peut penser, c'est presque évident, qu'il y aura une explosion du chômage. Une explosion du chômage, ça ne provoque pas forcément, loin de là, des manifestations, des grèves, etc. Au contraire, vous savez, le chômage est le principal adjuvant à l'ordre social. Donc, est-ce que ça va provoquer un tel désespoir qu'on aura des mouvements terribles, il y a les gilets jaunes à la puissance 10, bien qu'au contraire, la France va basculer dans une forme d'apathie. C'est pas du tout facile à déterminer a priori.
Vous restez avec nous, dans un instant, on va parler du style Castex.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Thierry Dagiral, entouré des grandes voix.
La relance, 200 plans sociaux en France, 27 000 emplois menacés. Comment réformer ce pays dans ces conditions-là? Et les auditeurs nous contactent bien sûr au 39-21 comme Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Écoute votre question aux grandes voix ce soir.
Alors, ma question est un peu en marge, mais en même temps, elle est au cœur du sujet. Mmh. J'entends qu'il serait question de recréer, un haut commissariat au plan qui serait éventuellement confié à François Bayrou. Je ne sais pas qui en serait le responsable, mais est-ce qu'un commissariat au plan, ce n'est pas la politique économique des années 50? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire à l'heure du digital et du monde moderne, si vous voulez. Donc c'est un peu ça ma question.
Merci Alain, vous nous appelez des Yvelines, merci. C'est vrai que ce commissariat au plan a été créé, c'était quoi, sous le général de Gaulle en 1946?
Ah je crois, oui tout à fait. Oui.
C'est utile ou pas, Jérôme?
En tout cas, ça a été très efficace pour construire la France.
Voilà.
À cette époque-là,
il faut rappeler
en tout cas,
ce que c'est, ça permet de faire des prévisions, d'anticiper.
Voilà, ben ça permet d'orienter les investissements, d'accompagner pas uniquement les investissements publics, d'accompagner également les investissements privés, de donner... Alors c'était très adapté, tous les pays en réalité l'ont fait, hein. C'est pas une mesure du tout socialisante, enfin c'est socialisant à l'esprit, mais c'était fait par toutes les puissances capitalistes, et ça a permis quand même les 30 Glorieuses en réalité, hein. C'était pas si obsolète que ça.
Mais c'est utile, ça en 46, en sortant de la guerre aujourd'hui à 2 ans d'une présidentielle, c'est utile ou pas?
Ça correspond pas tellement évidemment à la période néolibérale qui a été initiée au début des années 80, si vous voulez, avec Reagan et tout cela, puis après la liberté de circulation des capitaux, ce genre de choses... et la construction européenne, ça ne semble plus tellement d'actualité. Donc, est-ce que ça peut être autre chose qu'un moyen de communication? Ce qui m'amuse un peu avec cette nomination qu'on nous annonce, donc de M. Bayrou à la tête du commissariat au plan.
Qui a été très taché, dit-on, en coulisses.
Un des derniers qui a occupé le commissariat au plan, c'était une plaisanterie un petit peu d'une forme d'ironie de la part de François Mitterrand. Il avait nommé Michel Rocard, en 81, comme il était ministre du plan. Et Michel Rocard, au contraire, lui, qui défendait, c'était le contrat, la libéralisation contre la première gauche incarnée par François Mitterrand, qui
le
lui était plutôt la gauche planificatrice. Il avait nommé Michel Rocard, c'est assez curieux d'ailleurs aussi de nommer quelqu'un comme François Bayrou qui n'est pas du tout dans la famille de pensée planificatrice. On verrait bien davantage un Arnaud Montebourg, par exemple. Donc, est-ce que effectivement cette domination laisse planer, enfin cette incarnation par François Bayrou de cette fonction, laisse planer un léger doute sur le sérieux de l'intention?
Je voudrais qu'on termine avec vous en parlant de ce style Castex qu'on voit maintenant depuis quelques jours, la méthode. On disait encore il y a quelques heures, en tout début de semaine, on est assez loin, que c'était ça allait être un collaborateur. On est finalement assez loin de cette image-là. On l'a vu mettre ses ministres en avant, il annonce une hausse du budget de la justice, une enveloppe pour les soignants. Il y va, Laetitia Krupa.
Bah, il est un peu obligé d'y aller. Hein. Il a tellement été précédé de tous les quolibets de celui qui allait simplement exécuter en se taisant, comme si cet homme n'avait aucune surface politique. C'est impossible de se présenter aux Français de cette façon-là. Donc tout de suite, il a fait 3-4 interviews aux médias, mais vraiment assez fondamentales, un 20h, une grosse matinale, et ensuite il va sur le terrain. Ouais. Donc ça, c'est très très clair. Et ses messages, en fait, quand vous le regardiez sur TF1, il a tout condensé. Enfin, c'est vraiment, il a fait son storytelling, il a installé cette idée du Premier ministre de la vie quotidienne des gens. Et les lecteurs du Canard Enchaîné ont lu que quelques mauvaises langues disaient que son accent était soudainement beaucoup plus prononcé ces derniers jours que d'habitude. Voilà, donc on a compris qui était Jean Castex. De ce point de vue-là, en termes de communication politique, cette séquence est réussie. Ouais. Il faut toujours, quand on est inconnu du grand public, se présenter et raconter l'histoire, voilà, cette histoire et ce roman national dont Emmanuel Macron est passionné d'ailleurs. Là, Jean Castex, pour l'instant, on comprend à peu près son personnage.
Jérôme Sainte-Marie, en 3 jours, il a effacé Édouard Philippe.
Oui, enfin, pour l'instant, les sondages qui ont été faits au tout début de ce... comment dire, de cette période, eh bien, sont assez négatifs. Je pense au sondage Elabe, par exemple. Ouais. Les Français ne sont pas du tout enthousiastes. Alors, effectivement, ils ne sont pas enthousiastes que pour deux raisons. D'une part, et là, il n'y est pour rien, M. Jean Castex, il n'est pas connu des Français.
Non.
Donc, il n'est pas... On voit surtout que les gens sont perplexes. Ouais. Mais quand même, il y a quelque chose qui le dessert. C'est qu'il voit bien que sa nomination semble indiquer que le jour d'après va quand même beaucoup ressembler au jour d'avant, que le discours sur les jours heureux tenu l'adresse présidentielle du 13 avril dernier, eh bien, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Donc, il y a une petite déception. L'autre chose qui le pénalise, Jean Castex, c'est que les gens n'ont pas tellement compris la motivation du changement de Premier ministre. Ouais. Pour l'instant, Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de son allocution du 14 juillet prochain, c'est que c'est de pouvoir trouver une justification. Les Français n'aiment pas quand il y a un changement institutionnel de ce genre sans justification. Ouais. Ils n'avaient pas aimé la dissolution en 97 dans la mesure où Jacques Chirac n'était pas capable de justifier cette dissolution. Ouais. Mais pour revenir à quelque chose d'encore plus ancien, je m'en excuse, quand Michel Rocard avait été remercié en 91 par François Mitterrand, Édith Cresson ensuite avait été fortement impopulaire, essentiellement parce que les gens n'avaient pas compris pourquoi Michel Rocard avait été démis, sinon pour des soucis de convenance personnelle du chef de l'État.
30 secondes pour terminer, Laetitia Krupa, semaine importante pour Jean Castex la semaine prochaine avec le discours de politique générale, ce sera le 15 juillet au lendemain de l'intervention télévisée du président de la République. Là on joue gros, hein, le discours de politique générale c'est face aux députés et il doit imprimer sa marque.
Oui, évidemment, et on devrait comprendre enfin à quoi va ressembler ce plan de relance. C'est surtout ça que les gens attendent. Il l'a dit, hein, il a dit, je ne suis pas ici pour avoir de la lumière, je ne cherche pas la lumière, mais des solutions, et je crois qu'il y a des résultats. Je crois que c'est ce que tous les Français attendent, voilà, des mesures concrètes. Il sera attendu vraiment sur ces points-là, très concrets, des mesures, on attend des solutions.
Laetitia Krupa, Jérôme Sainte-Marie, ce soir dans Les Grandes Voix, merci à vous deux.